Bonjour et bienvenue pour ce hors-série d'Oleti. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je suis l'invitée d'un podcast qui s'appelle Océanienne Inspirante, un podcast calédonien où j'ai eu le plaisir de me dévoiler durant, accrochez-vous bien, 2 heures. Ce sera donc 2 épisodes que je vous partage dans ces 2 hors-séries d'Oleti. Bonne écoute et bonne découverte parce que vous verrez qu'il y a des choses que je ne vous ai jamais dites. Avant de démarrer notre échange avec Alexandra, j'en profite pour vous parler des 2 événements que j'organise en octobre. Le premier, ce sera mon challenge Stand-up Paddle Yoga qui aura lieu du 2 au 7 octobre. Je t'invite à regarder le lien dans le descriptif de cet épisode. Et bien sûr, à la fin d'octobre, je serai dans la magnifique vallée de la Tchamba en Nouvelle-Calédonie pour une retraite retour aux origines. On va faire du stand-up paddle, descendre une rivière, être logé en tribu et bien évidemment pratiquer le yoga tous les jours. Là aussi, si ça t'intéresse, tu peux regarder le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Océanienne Inspirante. La Nouvelle-Calédonie est son berceau et je suis Alexandra Gazarian, sa créatrice. À travers ce podcast, je souhaite mettre en lumière et vous faire découvrir sans filtre les femmes océaniennes. Elles vous raconteront leur parcours de vie, leurs projets, aussi bien professionnels que personnels, culturels, associatifs. Grâce à ces écoutes, j'espère vous communiquer leur courage et leur audace. Quelles que soient vos origines, vos envies, vos rêves, soyez inspirés, soyez vous-même et bonne écoute.
Ce sponsor-là ne suffisait plus, il fallait que j'aille chercher un deuxième sponsor pour couvrir les frais de cette traversée et c'est un transport frigorifique qui m'a soutenue parce qu'il lançait, vous les voyez les camions ici à Nouméa, ça s'appelle Steph, c'est des 2 grands ronds bleus, un bleu clair et un bleu marine, l'un oui. dans l'autre. Et c'est en fait, eux, ils lançaient une filiale mère qui s'appelait Tradimar pour rallier la Corse au continent et du coup, ils voulaient faire un bon coup de com' pour ça. Et le père du responsable, du directeur de la communication de cette boîte-là, qui était à Paris, lui avait parlé de moi. Comme quoi, c'est incroyable. Je cherchais des sponsors depuis 2 ans. Enfin, depuis 1 an, j'avais reprolongé d'un an ma recherche pour arriver à mener à bout ce projet-là. J'avais écumé pas mal de bureaux de directeurs de la com à Paris. Et puis un jour, boum, c'est ce gars-là qui m'appelle au téléphone. C'est tombé du ciel. Ça n'a pas été facile de le convaincre, de lui faire signer le contrat. Mais après, c'était vraiment une super aventure aussi, cette entreprise-là. Les transporteurs...
T'as cumulé les deux ou pour oui. pouvoir permettre du coup...
C'était 2 partenaires titres. Ils étaient investis à 50% chacun dans le projet. Donc, ils avaient tous les deux la plus grosse part visuelle dans ma com. Et donc, ouais, je disais, les transporteurs, c'est un public qui est intéressant aussi. Ils passent leur journée sur la route. J'ai visité les centres de redistribution quand t'as un camion qui arrive à destination dans un hangar frigorifié. Et de l'autre côté, t'as un autre camion. Enfin, c'est vachement, bon, je
suis curieuse. Tu vois, genre, quand je te disais le côté logistique, vraiment, t'as plein de spécialités.
Ouais, non, je suis très curieuse. Alors, c'était super intéressant pour moi de découvrir tout ça.
Et là, du coup, moi, j'aimerais comprendre comment dans ton cerveau naît l'idée de te dire « je vais faire la traversée de l'Atlantique en planche ».
Ah ouais.
Alors, oui, tu vois, quand même. Parce que toi, ça te semble hyper naturel.
Ouais. Mais... Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai aussi fait partie d'une écurie de course au large qui s'appelait, qui était sponsorisée par les gâteaux Brossard. C'était le Team Océan. Ouais, des bons gâteaux au chocolat. Ouais. Pas très bon pour la santé, je pense. Mais ils ont dû s'améliorer. Il doit y avoir moins de colorants, machin, de trucs. Et donc, en fait, dans cette écurie, c'était une écurie novatrice, je sais pas s'il y en a eu d'autres d'ailleurs, parce qu'il y avait un multi-coque de 60 pieds, un Figaro à l'époque, un petit catamaran, un Acra, et il y avait une planche, c'était moi. Et tous les skippers pouvaient venir naviguer, être équipiers sur le grand bateau de la flotte, qui était donc le bateau d'Yvan Bourion, le multi 60 pieds. C'est énorme, c'est vraiment une araignée sur l'eau gigantesque. Et j'ai aidé Yvan à convoyer son bateau de Cascais au Portugal jusqu'à Lorient en Bretagne. Et c'est là, à la barre de ce bateau, parce qu'il savait que j'avais grandi sur un voilier, comme lui, du coup il m'a fait extrêmement confiance pendant que lui il allait se reposer dans ses cars, dormir. Il y avait un technicien qui était à bord pour faire des polaires de vitesse, mais il restait toute la journée enfermé devant son ordinateur, le pauvre, à étudier les paramètres.
Il a tout loupé.
Et je sais pas comment il faisait pour pas être malade, parce que moi j'étais malade. Hein. Ça bougeait dans tous les sens, on avait à moitié tempête au passage du Cap Finistère, voilà, 20, 30 nœuds, une houle démontée, la mer démontée, un catamaran, un trimaran. Donc quand on est à la barre du trimaran, on est sur les coques excentrées et on est déjà à 12, 15 mètres de haut en fait. Hein. Et on se prend des vagues dans tout le dans les yeux, donc je mets déjà un casque de ski. Pour réussir à voir.
Les tips.
Le ciré, parce que ça caillait. Je tremblais de peur, de froid, de peur, parce qu'en fait, les bras, c'est en carbone, et ça bouge, ça se déforme, ça fait des bruits, mais monumentaux. Bref, et pourtant, j'étais tellement à ma place. Je me sentais, mais vivante, à ma place. Moi, ce que j'adore le plus sur cette planète, c'est tourner la tête partout, ne voir que du bleu, que de la mer. Et là, franchement, je suis trop heureuse. Il y a une impression d'infini, de liberté totale, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ma cocotte, ça fait trop longtemps que tu fais la navigation côtière, t'as grandi au grand large, il est temps que tu y retournes.
Ouais.
Donc, tout de suite, j'ai pensé à l'océan qui était en face de moi, à l'océan Atlantique. Et je me suis dit que j'allais traverser cet océan-là. Je voulais le faire sur un support qui était à ma hauteur. J'ai un petit moment pensé aux mini C50 qui sont des petits bateaux, puis finalement je me suis dit mais non, mais moi c'est en planche que je veux le faire, c'est, je veux être au taquet sur ma planche pendant des jours et des jours en pleine mer, complètement en immersion quoi. Donc ça, j'ai mis 6 ans pour maturer ce projet, 3 ans pour le réaliser. En fait, un jour, j'ai simplement parlé avec mon patron de l'époque, que je bossais dans une télé, j'étais responsable d'une chaîne 100% Bits qu'on a montée ensemble et que je présentais et je réalisais. J'ai appris ce métier-là sur le tas. Et un jour, je dis à mon patron, tu sais, qui était aussi routeur pour les bateaux de course large, en fait, j'ai un projet, j'en parle pas aux gens parce que j'ai pas fait une prenne pour une folle, mais j'aimerais vraiment traverser l'Atlantique en planche à voile. Il m'a regardé, il m'a dit, ben ouais, c'est super, qu'est-ce t'attends? Et ce qu'est-ce t'attends, c'est fou comme le pouvoir des mots. Il a résonné en moi, mais façon 10 000, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce que t'attends? Et donc, ça y est, c'était parti. La machine était lancée, dossier de sponsoring, aller-retour à Paris pour rencontrer les boîtes qui pouvaient être susceptibles de coller avec mes valeurs et d'être intéressées par mon projet. Et en février 2002, je me suis lancée avec ma planche de Dakar, du Sénégal, pour rejoindre la Guadeloupe, avec l'envie de montrer qu'avec du cœur, tout est possible. Que même quand il nous arrive une tuile dans la vie, il faut s'y adapter, mais quand même toujours garder ses rêves, peut-être les adapter hein, à notre nouvelle réalité, mais de quand même arriver à trouver une solution pour les vivre. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon projet, à un peu plus de la moitié du parcours, après 12 jours de navigation, à 8 heures par jour de nav, une centaine de kilomètres par jour. J'ai dû m'arrêter, je commençais à avoir des troubles de la vision, de l'audition, un début de perte de connaissance. Le médecin des marins qui me suivait à distance, le docteur Chauvet, m'a dit en fait que j'étais allée au bout de mes limites hein, et que ça allait être difficile de retrouver...
suffisamment de force pour
partir. Je me suis reposée 2 jours. Quand je suis retournée sur l'eau, pareil, j'étais encore au radar, en mode pilote automatique, et j'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait, fallait que je sois en pleine capacité de en position des capacités, parce que ma sécurité dépendait de ma capacité à communiquer avec mon équipage, ouais. Puisque lui me perdait de vue au bout d'une demi-heure. À cause des vagues, ils allaient moins vite que moi sur le catamaran qui me suivait. Donc, si je tombais dans l'eau, si je perdais connaissance, si je m'évanouissais, ils m'auraient pas vu. En
fait. Ouais.
Donc, fallait que moi, je sois capable de les appeler. Et là, clairement, j'étais plus du tout dans cet état physique-là, donc j'ai décidé d'arrêter. Ça a été très dur. Et puis, un jour, après l'arrivée, j'ai quand même décidé d'ouvrir mon ordinateur. Et là, j'ai vu des centaines de mails arriver dans ma boîte de réception avec que des gens qui me félicitaient, qui me disaient « Mais carrément, avec du cœur, tout est possible. » Et c'est là où j'ai compris que dans un projet, il y avait plusieurs objectifs dans un challenge comme celui-là. aussi. Moi, c'était de vivre l'Atlantique sur ma planche au taquet des journées entières en solo avec la nature. Ça, je l'ai clairement vécu. J'ai vu une baleine, j'ai navigué avec des centaines de poissons volants, des dorades de coréphènes, des fous de bassin qui arrivaient, un petit oiseau qui s'est posé sur ma planche. Enfin, c'était... Enfin, je sais pas si vous avez vu Vaiana, mais moi, j'avais l'impression d'être cette... Ouais, d'être cette petite Polynésienne sur sa pirogue à la conquête de l'Ouest, quoi. Et après, c'était d'arriver à mon point final qui devait être la Guadeloupe. Ça, sportivement, j'y suis pas arrivée. Et le dernier objectif qui était vraiment important pour moi, c'était de porter ce message. Avec du cœur, tout est possible. Et ça, c'était pleinement... pleinement réussi, on avait une belle couverture médiatique, mes sponsors étaient contents dans ma capacité aussi à montrer que qu'il faut savoir dire stop à un moment donné, même dans un défi sportif. Donc en fait, voilà, il fallait juste accepter la déception de pas être arrivé à son point final d'un niveau sportif. Mais tout le reste a été une super expérience. Et après ça, j'ai pas réussi à retourner sur le circuit mondial. Ça me semblait moins pétillant et extraordinaire que ce que j'avais vécu pendant cette expérience-là. Donc, j'ai décidé de continuer à faire de l'expédition. Je suis partie notamment en Amazonie pour parler de la construction de 7 barrages hydrauliques sur le Rio Tapajos, qui est un des principaux affluents de l'Amazonie. Donc, je suis partie avec un stand-up paddle. Et à l'époque, je vais partir avec une équipe télé, mais c'est tombé à l'eau. Donc, je suis allée toute seule avec ma caméra pour faire un documentaire et des photos pour les magazines. Et puis ensuite, mes sponsors, ils ont compris que j'étais pas très frileuse et je crois qu'ils m'ont donné un peu les rebuts du team. Mais ça m'allait très bien. Ils m'ont envoyé en Corée du Nord, ils m'ont envoyé au Liban faire des reportages où peut-être que certains avaient pas trop envie d'aller là-bas parce que c'était un peu plus risqué quand tu regardais la carte.
Oui, c'est pas les premiers endroits où on a envie d'aller faire des reportages pour un peu fun. En même temps, quand même, pour expliquer, on t'envoie faire des docus, des photos, des reportages. Mais comme tu disais justement, ça faisait quelques années que tu t'y étais mise professionnellement et où tu étais dans le milieu.
Ça faisait du sens. Ouais.
N'oublions pas, ça fait du sens. Tu avais, en parallèle du coup de tes recherches et des compètes, tu t'étais lancée. Ça, depuis combien d'années tu y étais dans le journalisme, entre guillemets?
J'avais juste bossé 3 ans dans cette boîte à mi-temps. Et après, j'avais arrêté parce que ça me prenait trop de temps. Et c'est de l'Atlantique, elle a préparé, c'était un boulot à plus que temps plein. Quoi. C'était la journée, la nuit... tout le temps, quoi. Entre la recherche de sponsors qui me prenait beaucoup de temps et la préparation. Monter l'équipe, une équipe à terre, une équipe en mer, trouver un bateau suiveur. Enfin, ça a été une aventure que vous pouvez lire dans mon livre Avec du cœur, tout est possible aux éditions Erol, d'ailleurs.
Petit moment pub.
Petit pub, voilà.
Hop, on vous mettra le lien.
Ouais, et en fait, ce livre, je l'ai écrit parce que souvent, les gens venaient me voir et me disaient, c'est extraordinaire. Et merci, c'est très gentil. Mais ce que je voyais dans leurs yeux, c'était, mais moi, je crois que je serais pas capable. Et tu serais peut-être pas capable en planche, mais par contre, t'as d'autres projets qui te paraissent énormes que tu fais pas alors que tu t'en serais capable. Je voulais écrire ce livre en montrant que ça n'est que de la gestion de projet. Donc le livre, c'est un carnet de voyage entrecoupé de petites fiches techniques qui ont été réalisées avec un collègue qui fait de la planche, mais qui est surtout professionnel en gestion de projet, qui analyse tout mon projet et qui donne des billes pour y arriver encore mieux que moi. Voilà.
Ok, encore mieux que toi, oui.
Ah ouais, ah oui, j'ai fait des erreurs dans ma gestion de projet. Vous allez voir
Et donc, achetez ce livre, lisez-le et vous en saurez plus.
Ouais, voilà, et puis vous m'envoyez un petit mot si du coup ça vous a motivé à faire un projet. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que les autres font.
Écoute, moi je trouve ça génial. Dans les prochains bouquins, à acheter pour mon voyage... Moi qui suis sur la gestion de projet et où du coup voilà, c'est parfait. Merci pour cette lecture à venir.
De rien.
Je te ferai les retours.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc te revoici reparti. En passage, on reprécise quand même. Du coup, oui, elle écrit, elle fait des livres, elle fait des docus, de la photo, des magazines, mais autant en magazine, en vidéo. Là tu te lances du coup avec tes sponsors qui continuent à te à te maintenir le sponsor.
Et en parallèle, du coup, grâce au Team Océan, je découvre la course au large, ça me plaît beaucoup, et je continue à naviguer. Après, je navigue sur un multi 50, ensuite les classes 40, et c'est là où je me dis, ah non, mais en fait, je veux faire ça, moi, je veux faire la route du Rhum. Donc, je commence à préparer un projet de route du Rhum, je monte mes petits dossiers, je retourne à l'assaut de mes partenaires pour voir s'ils me suivraient sur un classe 40 pour m'aligner sur la route du Rhum. Et puis ils disent non. Ouh, déception. Bon. Ils disent non. Et moi, avec Aurélien, on s'est mis en couple, vient envie d'avoir un enfant. Donc, je suis vraiment à un croisement de ma vie où je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste dans cette optique course au large et puis je voyais pas comment faire de la place pour un enfant dans ces cas-là. Ou est-ce que finalement, quelle est ma véritable envie ? Moi, c'était d'être sur l'eau. Et donc, bah, pourquoi pas faire ce que j'ai toujours voulu faire. Je savais que quand je serais maman, je voudrais repartir en voyage avec mes enfants. Ça aurait pu se faire en vélo, en caravane. Bien sûr, en bateau, c'était mon modèle de base. Donc, c'était ça qui m'allait bien aussi. Puis Aurélien, comme il faisait de la planche à voile, il était super motivé par le projet. Et donc, finalement, c'est dans cette voie-là que je me suis lancée. Et on a préparé notre grand voyage. Qu'on a documenté dès le début. Moi, j'avais envie de parler de ce projet-là. Donc, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Poussée par le vent, où vous verrez toute notre préparation. Voilà, on a vendu le peu de choses qu'on avait à terre pour acheter notre bateau, avoir assez de sous pour partir en voilier. Notre petit garçon est arrivé dans la préparation, donc on a attendu qu'il naisse avant de partir et qu'il s'empote un petit peu avant de partir. Et quand il avait 4 mois, et ben, ça m'a semblé correct pour larguer les amarres.
Ah oui, tout à fait. Et du coup, nous voici partis pour 2 ans de voyage.
5.
5, ah oui. 2 ans, c'était la pause.
C'était il y a 5 ans. Voilà. C'était il y a 5 ans. On a, au niveau du trajet, on est parti de Bretagne, on a fait l'Espagne, le Portugal, le Maroc, les Canaries, le Cap-Vert, le Brésil, la Guyane française, l'Antillé jusque dans le nord, Saint-Martin. Et on est redescendu. Là, on a fait une de mes dernières échos pour Mia, qui grandissait dans mon ventre, la petite sœur de Naël, le plus vieux. Et ensuite, on a fait Los Roques, La Sapes, qui sont des îles super pour le kite au nord du Venezuela. Mia est née dans des îles hollandaises qui sont au nord du Venezuela. L'île, elle s'appelle Bonaire. Et on a continué la suite du voyage quand elle avait 1 mois par la Colombie, le Panama, le Costa Rica, où on s'est retrouvés confinés. Où du coup, moi aussi, j'ai créé un podcast qui s'appelle Oleti, où j'interview des femmes et des hommes qui sont en lien avec l'océan et où je vous parle de mes projets, mon style de vie. Et ensuite, on a traversé l'Atlantique, le Pacifique, 31 jours. Ah, pas sûr que je le referais avec des
enfants. Ah ouais?
Ouais, c'était dur. Ouais, c'est vachement long. Et puis en plus, comme on avait choisi d'aller au Gambier, on s'est retrouvé dans une allure, donc une direction du vent par rapport à la houle qui était très sollicitante avec des vagues qui nous arrivaient dans l'arrière du bateau. On s'en prenait plein la tronche. Comme d'habitude, à chaque traversée, il y avait un enfant qui apprenait à marcher. En l'occurrence, c'était Mia. Naël, c'est cool, il était assez autonome, mais Mia, c'était crevant. Elle râlait, il fallait souvent jouer avec elle. Et elle râlait parce qu'elle tombait. Et 31 jours après, on est arrivé au Gambier, et ça, c'était une très grande fierté familiale, parce que ouais, ça a été vraiment dur mais extraordinaire, quoi.
Ouais.
Extraordinaire. Et ensuite, oui, je savais que la Polynésie, c'était extraordinaire. J'avais dit à Aurélien, il faut qu'on y reste. Et de toute façon, on avait prévu aussi d'y rester, parce qu'il fallait qu'on regagne un petit peu de sous pour renflouer la caisse de bord. Donc, on y est resté 2 ans. Et c'était vraiment génial. Ça tombait aussi bien parce qu'avec le Covid, toutes les frontières se sont fermées.
Ouais. Ça a été parce que tu as été confinée. Là, vous avez été confinée.
Au Costa Rica et en Polynésie. Ouais.
Ok. Et vous avez profité d'un créneau pour partir en mer et vous retrouver reconfinée.
Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était compliqué. On n'avait pas le droit de rentrer en Polynésie française. La population était assez hostile parce qu'elle avait peur du virus à l'arrivée d'étrangers. Puis à un moment donné, la situation s'est un peu assouplie. Voilà, on a pris le risque, on est arrivé au Gambier. On a été reconfinés une semaine sur notre bateau. Après 31 jours confinés sur un voilier. Autant dire que le virus n'avait aucune chance de survivre. Mais bon, c'était le protocole.
Mais ici, c'était pareil. Quand t'arrivais, il fallait que tu sois confiné.
Ouais, mais vous faisiez un vol de 24 heures pour aller en France. Nous, on avait voyagé 31 jours.
Bah moi, j'en connais qui l'ont fait en bateau et qui ont été confinés en bateau aussi. Oui, parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu en voyage un peu partout. Et en fait, c'était assez compliqué d'arriver en avion parce que tu pouvais pas forcément aller chez toi. Il y avait eu des cas où tu pouvais au début. Mais les gens, après, partaient de chez eux parce qu'on ne pouvait pas. Donc après, c'était en hôtel. Et certains, du coup, ont pris l'option bateau. Et il y en a eu plein aussi qui ont été confinés en bateau aux alentours de Nouméa et à d'autres. Donc une semaine bloquée en bateau aussi, quoi. Une semaine, 10 jours, je crois même. Et un petit peu partout. Mais apparemment, c'est une vraie expérience de vie, écoute, hein, pour t'en faire une de plus. C'était pas mal. Et du coup, en Polynésie, vous faisiez quoi?
Alors, Aurélien, il travaille avec les fédérations de voile, il est conseiller technique pour les fédérations. Et moi, j'avais décidé de passer ma formation de stand-up paddle yoga, parce que ça aussi, je l'ai pas dit, mais après ma carrière, j'ai monté une école de stand-up paddle et de yoga sur la plage et sur le stand-up paddle. Donc j'avais mon petit camion, mes planches, et quand je suis partie, ben j'ai arrêté, mais j'ai invité mes élèves à me suivre sur des retraites que j'ai organisées au Brésil et au Costa Rica, où on faisait du paddle, du yoga, on visitait le pays, c'était trop bien, dans la nature. Et la formation que je donnais depuis 2015 pour former les futurs professeurs de stand-up paddle yoga, je l'ai passée 100% en ligne en arrivant en Polynésie. Donc je me suis concentrée sur cette activité-là et j'ai aussi créé une formation pour aider les couples et les familles à partir voyager en voilier. Donc moi, c'était plutôt un business en ligne que je faisais à l'époque.
Oui, ce qui te permettait de le maintenir après, parce que tu savais que vous alliez repartir autre part, et au moins, ça te permet d'avoir des sous un petit peu partout.
J'ai arrêté ma formation, j'ai mis en pause ma formation voile. Elle est en pause, peut-être un jour ça me reprendra de l'ouvrir. Par contre, ma formation, la Sup Yoga Teacher Training, elle fonctionne toujours, c'est toujours une activité que je fais. D'ailleurs, mes élèves ont créé le premier festival de stand-up paddle yoga en France, et moi, j'ai eu l'occasion de devenir professeur à l'université pour le premier diplôme universitaire de stand-up paddle.
Ah oui.
Ouais, en métropole, tout ça à distance. Vive le Covid, parce que ça a vraiment été possible, tout ça, je pense, grâce à cette période où les gens se sont dit, mais avec Internet, en fait, on peut faire plein de choses.
Bah, je trouve que c'est un des gros avantages qui a découlé justement du confinement, c'est du coup tout le monde a compris que oui, on peut faire pas mal de choses à distance, on peut avancer sur pas mal de projets et on peut faire plein de choses d'un point de vue personnel et professionnel. Et ça, c'est vraiment... Du coup, attends, à l'université a été créé un diplôme de stand-up paddle.
J'espère que vous écoutez ce podcast en 3 fois parce que ça
fait... 1h23.
Oh, les pauvres. Ils vont en avoir marre de s'arrêter là.
Mais non, moi je me régale. Attends, on va y être. J'ai dit en moyenne de toute façon. Mais j'ai des invités tellement intéressants. Ça dure 2 heures. Je pense qu'on est capable de se faire à 2h15 avec toi tel qu'on est parti. Puisqu'après, il y a les questions de la fin. Je sens que tu vas avoir plein de trucs à me dire.
D'où la taille de la théière quand même.
Tu vois, ouais, et surtout chacune sa théière, chacune son thé. Du coup, on était sur le stand-up paddle, une école, des cours, mise en place à l'université du coup d'un diplôme.
Ouais.
Dans lequel tu es donc prof à distance.
Ouais.
Et référent, j'imagine.
Oui, qui est en charge de toute la partie stand-up paddle yoga, stand-up paddle fitness.
Et ça se passe où en France?
C'est à l'université de... Je voudrais pas dire de bêtises... Mais c'est dans l'Est, enfin c'est vers Lyon. Parce qu'en fait, il y a des épreuves pratiques et théoriques. Il y en a qui ont eu lieu sur le lac d'Annecy. Les prochaines auront lieu à la Grande Motte. Donc c'est un petit peu partout. Mais ça peut suivre, en fait.
Ça peut suivre un peu en distanciel.
Exactement, exactement. Présentiel et distanciel.
Ok.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez devenir professeur de stand-up paddle, et accessoirement de paddle yoga, de paddle fitness, de paddle pilates, de ce que vous voulez sur un paddle. Même si vous êtes prof de yoga, Il vous faut la compétence teint de paddle qui fait partie du ministère des Sports, donc il vous faut un diplôme d'État reconnu par le ministère des Sports. Pour ça, il vous faut soit un CQP, un monitorat de voile, de kayak ou de surf, soit un BPJEPS, anciennement brevet d'État, des mêmes disciplines, ou des équivalences qui sont possibles si vous avez fait une licence TAPS, si vous êtes brevet d'État de la forme, si faut vous rapprocher de votre direction jeunesse et sport pour voir ce qui est possible de faire.
Et toi, du coup, comment t'as fait? Parce que là, on ne l'a pas dit, mais si je ne dis
Moi, j'ai un brevet d'État de voile. Suite à ma... Alors, en fait,
parce que le STAPS, t'as arrêté.
J'ai arrêté à la licence. J'ai commencé le master, mais ça m'a saoulée. Je ne voyais pas l'intérêt parce que j'étais journaliste sportive, donc j'ai compris que je ne voulais pas être prof de PS, en fait. Donc, j'ai arrêté, mais j'avais quand même une licence. Ça, ça a été une belle idée puisque ça m'a permis d'avoir une équivalence pour passer en candidat libre mon brevet d'État de voile. Que j'ai passé en loose day en ayant très peur que la commission médicale me tombe.
Oui, sur je voulais dire, là, ils sont pas revenus.
Et non, mais j'ai eu de la chance, hein, parce qu'un peu plus, ils m'interdisaient, hein, parce que je pouvais être un élément à risque pour encadrer des jeunes sur l'eau. Mais bon, j'ai eu mon diplôme, j'ai demandé ma note technique et j'ai eu mon diplôme. Et puis, donc moi, je suis brevet d'État de voile, anciennement monitrice de voile ici. Au Cannes, à la province sud. Et puis, j'ai également, quand j'ai découvert le centre de paddle yoga, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, je faisais des étirements depuis toujours. Et là, c'était une façon de mêler le yoga avec toute la partie spiritualité, enfin, art de vivre que j'aime beaucoup, à la glisse, en fait, du yoga sur un paddle. C'était juste fait pour moi. Donc, au départ, j'ai consommé un maximum de contenu en ligne, des tutos et tout, et puis ça m'allait plus, je voulais aller plus loin, donc j'ai décidé de partir au Québec, me former, suivre un Sup Yoga Teacher Training pour devenir prof. Et là, j'ai dit, ok, laisse tomber, il faut que j'en parle à tout le monde, c'est trop bien, il faut que je forme des futurs profs, je monte ma formation, je monte mon école. Et pour être vraiment complète, je suis partie en Inde pour devenir professeur de yoga. Donc, j'ai un diplôme reconnu par Yoga Alliance, qui est un label international. J'ai été formée au Ashtanga Yoga et au Hatha Yoga, qui sont les yogas de base. Aujourd'hui, à Nouméa, je donne deux cours de yoga, le mardi et le jeudi. Et j'ai pas repris les cours de stand-up paddle yoga, parce que comme vous l'avez constaté, c'est un peu le bazar dans l'eau en ce moment, avec nos chers amis les requins,
qui sont plus trop aimés
par la municipalité.
Oui, pour nos auditrices et auditeurs internationaux en France ou autres, et qui ne le savent pas forcément, nous n'avons plus trop le droit d'aller dans l'eau aux alentours de Nouméa. C'est quoi les distances?
Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu... Allez, en fait, ça fait quelques années qu'il y a des attaques régulièrement. Et là, par contre, ce qui n'est pas cool, c'est que depuis mon retour, donc depuis quelques mois, il y a eu des attaques mortelles, vraiment très rapprochées. Et en plus, sur la plage principale de Nouméa, moi, j'ai été témoin d'une des dernières attaques. C'était vraiment ultra choquant parce que voilà, il y avait une centaine de personnes sur la plage. Il fait beau, enfin, jamais de la vie t'imaginerais une scène de massacre à cet endroit-là. Pourtant, ça a été bien et bien le cas. C'est deux requins qui auraient attaqué ce touriste australien. Donc, à partir de ce moment-là, la mairesse, elle a interdit la baignade partout sur le littoral à Nouméa, la capitale, jusqu'à nouvel ordre. Et elle a maintenu les activités nautiques, en fait. Elle n'a pas trop le choix. La compétence de la municipalité aujourd'hui s'arrête aux 300 mètres du rivage. Et après, c'est la province sud qui prend le relais. En Calédonie, c'est un peu particulier, hein, on n'est pas comme en France. Et ensuite, c'est l'État qui gère. Ouais. Nous, quand on a
au-delà,
le
sol,
c'est l'État. Ouais. Voilà. Bref, voilà, il y a un dérèglement en Calédonie. On savait que ça allait avoir lieu. Parce que y a eu la réunion avant nous. Moi, je pense vraiment que les prochains, c'est Tahiti. Il faudrait comprendre pourquoi, mais aujourd'hui on est plus dans
la prévention,
l'urgence. On est dans l'urgence, donc il y a des pêches, des prélèvements qui ont lieu pour enlever un maximum de requins tigres et bulldogs. Est-ce que c'est la solution? Je sais pas. Moi, ce que je regrette, c'est que malheureusement, les scientifiques sont pas assez protégés pour avoir le droit de parler sans risquer leur vie. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et donc en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi il y a ce dérèglement. Il n'y a pas d'étude qui est faite pour comprendre un peu mieux le milieu marin et pourquoi sur la planète ces phénomènes s'accentuent de plus en plus. Donc toujours est-il que les baigneurs n'ont plus le droit d'aller à l'eau, sauf sur une toute petite zone de baignade à la baie des Citrons. Bientôt, des filets seront installés. Et les pratiquants plaisanciers et de glisse comme nous pratiquent à leur risque et péril. Hors des périodes de pêche. Il y a des 10 jours de campagne de pêche tous les mois. Bien évidemment, je n'irai pas rider quand ils pêchent, hein, puisque là, ils appâtent avec des grosses têtes de thon, etc. Ouais. Donc, c'est pas le moment d'être dans l'eau.
Puis, ils relâchent après, du coup, les requins qu'ils ont abattus, ils les relâchent en mer.
Plus maintenant, ils les enfouissent encore. Et ils parlent même, du coup, de filière de retraitement de ces requins pour en faire plein de dérivés. C'est une période vraiment très bizarre, surtout pour les amoureux de la nature et les pratiquants de glisse que nous sommes, ceux qui sont pas beaucoup sur l'eau et ils ont pas cette pression-là. C'est vraiment particulier. Moi, ça m'empêche pas de continuer à aller dans l'eau, à naviguer. Forcément, à certains moments, à certains endroits, on peut y penser. Mais voilà, moi, j'estime que la peur, elle est utile à certains moments, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? Moi, je suis passionnée par l'océan, c'est ça que j'aime faire. Alors, ça sert à quoi de cogiter? En fait, faut juste y aller et puis éviter certaines périodes de la journée où il y a plus de risques. Mais malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de règles.
Non, il n'y a plus de règles, parce que si je dis pas de bêtises, toi, tu y étais, l'attaque...
16h.
Ouais, voilà. Ah, ouais. Ça commence.
Fin de journée. Les deux, ça a été 16 heures.
En fait, après,
ils ont quand même un peu observé les requins et ils ont vu qu'ils suivaient le littoral à une certaine heure. Donc,
oui.
Et en plus, ils chassent que à certains endroits.
Il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites depuis de nombreuses années sur la Calédonie, Nouméa et les alentours. Beaucoup de requins qui sont quand même du coup, j'allais dire badgés, mais c'est pas des badges, c'est des...
Plus sur les requins blancs, les Australiens je crois.
Bah ici, il y en a, hein. Il y en a plusieurs qui sont suivis régulièrement.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on a pu repérer les différentes zones, les heures auxquelles ils vont, etc. Dans quelle zone, quand est-ce qu'ils vont manger, etc.
Oui. Depuis la première crise de requin qu'on a eu ici il y a 5 ans, je crois. Oui, il y a quand même des choses qui ont été faites.
Il y a des choses qui sont faites. C'est juste que là, il y en a eu tellement, ça a été tellement... Et c'est vrai que tu as vraiment la pire période. Pire moment, c'est vraiment quand il y a eu, en gros, un décès à l'international.
Ouais.
Qui a fait que tout a été arrêté. Il y avait déjà des pistes, il y avait déjà des personnes qui étaient venues. Il y avait une conférence l'année dernière d'une scientifique qui proposait de mettre des espèces de tubes ou de tuyaux.
Répulsifs
par requins. Il y a pas mal de choses qui sont étudiées, mais ça coûte assez cher. Et du coup, il n'y avait pas encore de solution qui avait été trouvée. Parce qu'on parle des filets, et oui, il y a des filets, mais tu vois, en Australie, ils sont en train de les retirer aussi, par exemple, parce qu'ils en ont depuis des années. Ils voient aussi les côtés négatifs des filets.
Ouais.
Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle.
Non, c'est une crise qui est compliquée, mais c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'échanges... La valeur ajoutée, à mon avis, les scientifiques, ils devraient être beaucoup plus actifs dans ce débat-là, et aujourd'hui, ils n'ont pas leur place. Enfin, donc, du coup, c'est compliqué, c'est pour ça que je n'ai pas relancé mes cours de yoga, parce que...
T'as pas le droit, non?
Si, je pense que j'ai le droit, parce que c'est de la glisse.
Moi, je pense que t'as le droit de le pratiquer personnellement, mais pas en tant que prof.
Bah si, parce qu'il y a quand même les entraînements qui ont repris, hein, en planche à voile, en obicat, en kata... Je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient pas. Après, pour rassurer ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas un peu la géographie en Calédonie, les attaques, elles ont eu lieu principalement à Nouméa, mais du coup, ça veut dire que si on s'éloigne de la capitale, tout le reste de l'île est quand même encore à peu près préservé. Quand je suis allée filmer l'unique capitaine calédonienne. qui pour aller donc au phare Amédée, une petite île qui est au large là. Et là, il y a aucun souci, on peut se baigner. Enfin, moi, sur les îlots, je suis beaucoup plus relax. Il y a plein d'endroits où.
Oui, et moi j'ai.
Mais il y en a partout, et il peut y avoir des accidents partout. Ben bon, voilà, à un moment donné.
Mais après, c'est comme n'importe quelle activité. Je veux dire, je pense qu'on a plus de morts sur les routes qu'en mer avec des requins. Il y avait une espèce de pub un peu qui disait il y a plus de morts dans le monde avec des gens qui se prennent des noix de coco que par des requins qui vont les tuer. Comme tu disais, genre moi j'étais sur un îlot Vertio il y a pas très longtemps. J'ai passé en tout 6 ou 7 heures sous l'eau en 4 jours à côté des tombants où il y avait des requins, c'était des pointes blanches. On fait attention, en fait, c'est faut s'informer, faut
informer les gens. En fait, on prend des risques à aller dans l'eau, hein. On prend des risques depuis toujours.
Ça fait partie
mais
du jeu.
En ce moment,
si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est certainement parce que tu l'as bien
aimé. Il faut comprendre.
Si tu veux soutenir Olécy, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou la plateforme de ton choix. C'est super simple, pas sur l'application Apple Podcasts ou Google Podcasts. Cherche Olécy. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur s'abonner. Jusqu'à la rubrique évaluation et avis. Tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner tes étoiles, 5 de préférence, parce que bon, bah, mon travail le mérite bien, non? Dis-moi aussi pourquoi tu écoutes Olécy, quel impact a ce podcast sur ta vie. Merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace. C'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Bisous, à la semaine prochaine.
Bon, là, je pense qu'on a perdu la moitié de ton audience, Alex.
Mais non, t'inquiète, je vais faire un chapitre genre requin. On va dire, mais qu'est-ce qu'elles ont fait au milieu de cette conversation? Écoute, on verra bien, mais en même temps, on parle de fonds marins et on parle de l'eau, donc ça fait partie des problématiques.
De ce que je fais aujourd'hui en Calédonie.
Et puis de ce que tu ne peux pas faire dans les pratiques que tu pourrais faire professionnellement.
Je ne fais pas de stand-up paddle yoga pour l'instant avec des élèves, mais ça reviendra. Et j'ai très hâte, donc j'ai 2 cours de yoga par semaine. J'ai aussi très hâte de reproposer des retraites de yoga et de stand-up paddle en Calédonie, puis à l'étranger. J'aimerais partir avec. Des water women ou des watermen en Australie, à Bali, à Cook, aller nager avec les baleines, faire de l'apnée que j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'ai plein d'idées. Et à côté, donc, je suis réalisatrice, productrice d'une émission pour Calédonia qui s'appelle Femmes du Lagon, où je vais interviewer des femmes en lien avec l'océan de par leur passion ou de par leur métier. J'ai aussi été la présentatrice d'une émission que vous allez découvrir ce mois-ci à l'occasion de la Journée internationale des océans qui s'appelle Les Ailes du Lagon. Diffusé sur NCI. Première.
C'est samedi, c'est ça?
C'est déjà samedi? Ah ouais.
Bah ouais, ouais.
Ok, donc ça va sortir bientôt, je sais pas quand exactement. Et puis voilà, je vais aller des reportages pour ceux qui veulent. Ça, c'est des projets que j'ai portés, mais après, il y a tous les autres projets qui arriveront et que je ne connais pas encore. D'où la magie de la vie.
Oui, et puis on a pu voir que tu étais pleine d'idées, pleine de projets.
En fait, je suis du genre multipassionnée, donc il faut que je m'organise dans ma tête. Mais en général, comme je veux vraiment...
Une fois que t'es organisée, c'est bon, ça peut partir un peu...
Je m'auto-censure plutôt bien. J'ai un carnet à idées, je fais « Ok, t'inquiète ma poule, ça c'est pour après, tu le feras un jour. » Mais pour l'instant, t'es pas encore morte. Il faut que tu te concentres sur l'essentiel pour
créer. T'as un carnet à idées?
Ouais, grave, il est trop
beau. Attends, mais moi, je veux trop savoir parce que j'ai plein d'idées. Moi, j'ai des post-it et je me dis, c'est pas du tout pratique et stratégique.
Non.
T'as un petit carnet
où tu notes tout. J'ai un gros carnet bleu où j'écris tout.
Un très gros carnet bleu.
Ouais, c'est clair. Et des fois, mais c'est super bien. Je refeuillette dans mon truc, je fais, ah ouais, ça, c'était important pour toi. Mais c'est trop bien, faut que tu le fasses et tout. Et puis bon, bah, des fois, faut accepter de faire le deuil de certains projets, hein. C'est qu'ils étaient moins importants que d'autres.
Oui, mais... Après, ça peut être aussi donner l'idée à quelqu'un d'autre qui peut faire le projet, ou tu peux faire un reportage ou autre chose derrière.
Oui, aussi.
Collaborer en parallèle.
Oui, mais c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, par exemple, ce producteur qui m'a contacté via une copine qui fait le même métier que moi, qui est réalisatrice, pour être présentatrice de l'émission. En fait, j'ai juste halluciné. Parce que moi, je crois beaucoup à la manifestation dans la vie. Et je pense que si t'as vraiment envie de quelque chose et que tu l'as bien défini et que t'as la vision du truc,
ça va arriver.
Voilà. Si tu travailles là-dessus ou qu'en tout cas c'est clair, soit c'est toi qui vas le créer, soit la vie va te l'envoyer. Et en fait, quand ma copine m'a dit ça, j'ai dit, mais attends, c'est hallucinant. Il me propose les ailes du lagon. Moi, je viens d'écrire un script sur les femmes du lagon, une émission que je compte proposer en arrivant à Nouméa. Donc, au départ, dans ma petite tête étriquée, je me suis dit, oh, mince, mais comment je vais faire? Il me propose un truc que j'allais lancer. C'est pas possible, finalement.
Je peux pas cumuler, mais ça va être compliqué.
Mais en fait, pas du tout. Le directeur de la chaîne calédonienne, il m'a dit, c'est génial. Après, je suis allée voir le producteur qui m'a dit, oh, bah ouais, bah c'est cool, je suis contente pour toi. Je savais pas que t'étais productrice aussi. Bah, super. Et voilà. Et du coup, vous aurez, non pas une émission sur les femmes du lagon en Calédonie, mais deux émissions avec des profils différents. Donc là, vous allez être régalés par...
Et comment vous dire qu'elle a une liste d'invités potentiels encore énorme et qu'elle en a encore d'autres.
Saison 2, peut-être saison 3.
Attends, pour ne pas spoiler, normalement, hormis fait de la vie et voyage à venir, tu es partie pour rester ici avec ta famille.
Oui.
Réinstallation en Nouvelle-Calédonie pour l'instant.
Je suis bien en Calédonie. Ouais,
voilà, donc on a quand même bouclé la boucle de... Tu es née en Calédonie et te revoilà en Calédonie.
Ouais, j'aime profondément le caillou et puis il y a ma famille ici, mais il y a quelque chose en Calédonie, quoi. C'est un pays qui est assez brut en énergie de par la culture kanak, de par son relief, sa chaîne, son lagon qui est exceptionnel. Alors, on n'a pas les atolls des Tuamotu comme en Polynésie. Mais voilà, on a des îlots qui sont assez fantastiques. On a le plus grand lagon du monde, donc ça correspond complètement à mon besoin d'être en immersion dans l'environnement, que ce soit en mer ou à terre, quoi.
Ouais.
Mais il faut que ça bouge. Donc c'est vrai que moi, j'aime beaucoup voyager. J'ai toujours voyagé. C'est bien. Comme j'ai un milliard d'idées à la seconde, pour l'instant, je m'ennuie pas. Et puis quand je m'ennuierai, j'irai bouger ailleurs et je reviendrai ici après.
En gros, elle est partie pour toujours revenir un petit peu régulièrement, vous inquiétez pas, vous pourrez la croiser à plein d'endroits. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, malgré tout, avant les questions de la fin?
Non.
Peut-être un appel, un projet, on ne sait jamais, attends.
Non, voilà, je pense que j'ai parlé du yoga, j'ai parlé du stand de paddle yoga, s'il y en a qui sont intéressés, de mes compétences de réalisatrice, journaliste, cadreuse, présentatrice. Voilà, si vous avez des projets en lien avec l'environnement...
Et tu sais que pour le stand-up paddle yoga,
ouais,
tu pourrais peut-être essayer de voir avec le club de voile. Ils ont un carré un peu protégé où ils font certains types d'entraînement.
Oui, c'est vrai. Mais non, merci.
C'était une idée. Excuse-moi.
Non, mais t'as raison. C'est mon côté extrême qui réapparaît. Mais être enfermée dans une petite case entre des bouées, non, je pensais plus à la baie des citrons. Non, mais je me renseignerai en temps voulu. C'est un endroit idéal. La baie, c'est abrité du vent.
Au niveau du vent, ouais.
C'est super bien. Non, mais ça repartira en temps voulu. Et puis, comme tout le monde, j'ai une journée que de 12 heures. C'est assez problématique,
ah bon,
ça, d'ailleurs.
Quoi, tu fais pas des trucs à 48
ou 72 heures? Et non, parce que, encore, quand j'avais pas d'enfant, je pouvais bosser le soir jusqu'à pas d'heure, mais je suis une couche tôt. Et puis maintenant qu'il y a des petits, alors là, ils m'épuisent, je suis obligée d'aller coucher tôt.
Ok. Bon, bah écoute, je te propose du coup d'enchaîner sur les questions de la fin. As-tu le temps de les lire, de les regarder?
Pas du tout. J'adore la spontanéité, donc je n'ai rien regardé.
Genre, j'ai eu aucun retour mail. Je me suis dit, ok, je lui redemanderai après des photos, etc. Oui, pour avoir toutes les infos.
J'ai vu que tu m'avais demandé des photos, je t'en.
Alors, spontanéité, allons-y. Question de la fin. Alors, quelle est ta devise?
Avec du cœur, tout est possible.
Pour toi, c'est quoi une océanienne?
Une océanienne, c'est quelqu'un qui vit dans l'océan Pacifique, pour moi.
Pour moi aussi. Écoute, quelle est la ou les femmes qui t'inspirent et pourquoi?
L'océanienne, c'est quelqu'un qui est lié avec l'océan aussi. Océan.
Ah, et qui est né avec l'océan?
Bah, qui est en lien avec l'océan. Tu sais, parce qu'il y a océanienne, alors
oui.
Ça me fait quand même penser à quelqu'un qui est en lien... Ça me fait penser à Vaiana, tu vois. Alors, peut-être pas là.
Ça fait partie de ton dessin animé préféré ou...
Ouais, grave, non, mais elle était trop bien, franchement.
Je me doutais.
Ah ouais, moi, c'est pas de Cendrillon que je rêve, c'est de Vaiana. En plus, il est génial ce dessin animé. Elle tombe pas amoureuse d'un mec, non. Elle
est pas dans les clichés.
Mais ouais, c'est génial.
On peut la mettre dans Les femmes qui t'inspirent.
Entre autres, mais sinon, non, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs femmes qui m'ont inspirée dans mon parcours. Il y a eu Hélène MacArthur, qui a su se reconvertir après sa carrière professionnelle en voile dans l'économie circulaire. Donc ça, je trouve ça super honorable. Ensuite, ben, plus récemment, une copine qui s'appelle Clarisse Kremer, qui est aussi championne de course au large, qui est un peu plus jeune que moi et qui a découvert très tardivement la course au large, qui a fait le Vendée Globe. Donc ça, c'est quand même des épreuves extrêmement difficiles. Elle continue de m'inspirer parce qu'elle a vécu une difficulté au niveau de ses sponsors liée à sa récente grossesse et elle a su rebondir en n'ayant pas peur de prendre des risques. Donc ça, je trouve ça incroyable. Après, ma grand-mère m'a beaucoup inspirée dans sa capacité à oser se mettre en avant pour passer des messages. Elle était très investie dans les veuves de guerre. Elle a eu la Légion d'honneur pour ça. Et j'aimais sa façon de s'exprimer, sa façon d'être à l'écoute tout le temps, d'être très juste par rapport aux différences sociales des gens. Enfin, ouais, ma grand-mère m'a beaucoup inspirée pour ça. Et puis après, ben, ma mère, toutes les femmes que je peux rencontrer, moi je suis inspirée au quotidien, ben, ne serait-ce que toutes les invités que j'ai dans Femmes du Lagon, c'est... Ouais, là je vous ai dit des noms, mais après je suis sûre que je vais sortir, je vais faire « Mais non, mais pourquoi t'as pas parlé d'elle quand même ?»
Ça fait toujours cet effet-là. Tu vois, genre, moi là je te pose des questions et j'ai été interviewée, après je dis « Mais j'ai pas dit ça, mais il y avait ça ouais. » et tout. Et il faudra te découvrir sous différents aspects.
Ouais, voilà.
C'est pour ça. Vous donner envie d'en savoir
ouais,
un peu
non,
plus.
Ouais, non, alors là, ça. C'est bon quand même. Vous êtes collés quasiment 2 heures, ça devrait suffire.
Alors, il y a toujours des trucs à découvrir. Et puis,
ouais, ouais,
je suis sûre que tu as encore plein de projets à venir.
Vous avez cours de yoga, vous verrez mon énergie. La communication non-verbale, c'est une des meilleures façons de comprendre quelqu'un.
La communication non-verbale.
Bah ouais, l'énergie qui circule sans parler.
Oui, et du coup... Je suis sûre que tu as plein de ressources à nous conseiller. Des podcasts, des films, des livres.
Ouais, alors c'est très drôle parce que mes copains se marrent. Je commence rarement une phrase sans dire « J'ai écouté un podcast et vous savez quoi ?» Eh ben, je suis super curieuse, donc j'adore les podcasts. Bon, il y a un livre quand même qui a marqué ma période adulte. C'est le livre d'Eckhart Tolle. Avec le pouvoir du moment présent, ça quand ouais. même c'est une des bibles pour moi. Et puis au niveau des podcasts, ouais, j'écoute pas mal de podcasts, un petit peu surtout j'aime beaucoup les podcasts sociétal et développement personnel, donc j'aime bien Empower, j'aime beaucoup Drôlement Inspirant, ça c'est un québécois.
C'est celui avec qui tu as fait ta Vlan. Formation.
Non. Ah ouais. Vlan, j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est dans cette catégorie-là, j'aime bien. Pour l'environnement, j'aime bien La Terre au Carré. J'ai découvert notre petit podcast calédonien qui est assez chouette. C'est le nom... Attendez, j'ouvre mon appli,
Elle a des notes pour tout, hein, je tiens à vous le dire. Elle a tout sur son téléphone, elle a des notes pour tout. Et elle référence tout pour être sans rien oublier.
Non, pas du tout. Destinée, c'est un podcast calédonien. Ah, oui. Pour les Calédoniens, ça vous plaira. Sinon, ouais, la Terre au Carré, Les Pieds sur Terre, j'aime beaucoup. Baleine sous Gravillon, c'est trop cool. J'ai pas de mal de podcasts pour les enfants, comme ça je leur mets une histoire, ils se calment un petit peu. C'est un bon retour au calme. J'ai beaucoup de podcasts au niveau business. Parce que ces femmes-là aussi m'inspirent, les filles qui sont parties de rien et qui aujourd'hui gagnent vraiment bien leur vie. Et voilà, encore une fois, c'est que de la méthodologie. Quand on veut, on peut et du coup, c'est des bonnes billes. Quelques podcasts un petit peu féministes, entre nos lèvres, j'aime bien. Ou maternelle, La Matrescence aussi, j'aime bien. Et puis, Océanienne Inspirante, vous connaissez ? Non, voilà, j'aime bien le podcast aussi de Laurie Tillman qui s'appelle Comment tu fais et dans les ouais voilà, bon je vais m'arrêter là, mais dans les podcasts business, il y en a une que j'aime bien parce que son parcours de vie est assez inspirant aussi. C'est Laurie et ça s'appelle Réunion Canapé. Je sais pas si elle continue, elle est plus sur YouTube.
Ah,
voilà, bon, mes pauvres, je vous ai envoyé des kilos de podcasts, vous allez être bien occupés dans vos trajets. Mais en fait, ouais, moi j'écoute un peu tout le temps et je les écoute en plusieurs fois mes podcasts.
Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que oui, ouais. Moi je fais des podcasts longs et toi t'en écoutes aussi.
Ouais.
Même si c'est pas ce qu'il faut dans l'idéal faire, on va dire, pour populariser les podcasts, mais on a toutes les deux cette écoute où on va l'écouter comme ça en faisant la cuisine, en faisant le ménage, en étant dans la voiture, en l'arrêtant, en reprenant plusieurs fois, et du coup la durée c'est pas forcément le critère de base, quoi.
Ouais, du coup c'est comme un livre, il y a certains podcasts avec qui t'as passé un beau moment et tu dis ah non c'est déjà la fin.
Ouais.
J'espère que je vais vous manquer.
J'espère que je vais vous manquer. Bon alors qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, j'imagine, donc déjà t'écoutes des podcasts.
Du temps quoi?
Il y en a pas.
Bah en fait déjà ce qui est trop drôle c'est que la frontière entre
ton travail et ton temps libre,
voilà, enfin ça veut dire quoi, tu vois, parce que moi mes métiers sont mes passions et souvent je me forme, je suis une grande consommatrice de formation, ben du coup en ligne, enfin récemment j'ai fait une formation pour devenir télépilote de drone, ça c'était en présentiel, ça m'a pris beaucoup de temps. Là, je continue de me former à l'audiovisuel pour améliorer mes prises de vue en tant que caméraman, cadreuse. J'écoute énormément de podcasts. Je pense que mon temps libre, c'est ça, c'est écouter des podcasts. Et bon, du coup, mon temps libre, ça va être les trajets en voiture, le temps d'aller prendre ma douche, parce que comme je suis sur un bateau, je vais à terre au sanitaire me doucher. Quand je suis au parc et que du coup... pendant mes temps libres, je dessine. J'aime beaucoup dessiner. Je fais partie des urban sketchers. Donc je dessine, je jouais du ukulélé beaucoup et puis là il y a un petit coup de mou, bah, c'est-à-dire qu'on peut pas tout faire malheureusement. J'aimerais bien, mais on n'y arrive pas. Donc, pour l'instant le ukulélé est un peu remis de côté.
Il était en pause.
Mais je vais le retrouver ce petit ukulélé et grande victoire, comment dire, je suis pas victoire mais très fière et très gratitude, voilà, grande gratitude. Je me suis enfin mise à la danse.
Ouh là là.
Et je faisais de la natation synchronisée quand j'étais plus jeune, et c'est là que j'ai découvert la danse, quand on pouvait pas s'entraîner dans la piscine parce qu'il faisait trop froid, et je me suis dit, ce truc est extraordinaire. Et j'ai vu des copines s'y mettre en Polynésie, et je me suis dit, voilà, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais m'y mettre, et donc je fais du classical lyrical. Si vous voulez vous marrer, revenez me voir sur ma page Instagram, régulièrement je publie des vidéos de mon entraînement. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de vous donner de la joie. Et surtout, je veux vous montrer que quand on veut quelque chose, même si au début on a l'air complètement, mais alors, ridicule, je suis complètement ridicule, à la fin, on est stylé et on a atteint son objectif. Fin d'année, le 10, 11, 12, tu peux réserver une de tes soirées pour venir me voir au spectacle de fin d'année de mon école.
10, 11, 12 de...
novembre.
Ah.
Et je suis sûre que je n'aurai plus l'air ridicule à force d'application et de travail. Et de surtout de joie, parce que ça me procure énormément de joie. Je me marre, en fait.
Ah, et du coup, ça, c'est sur Insta qu'on peut voir tes vidéos?
Ouais, carrément, en story. En story.
En story.
Je montre les backstage un peu.
Et t'es dans quelle école?
Arrêt et mouvement.
Ah, ok.
Karine Raga.
Oui, moi, je vais souvent voir. Mais écoute, dans le genre ridicule et tout, genre, moi, j'ai testé le cerceau aérien.
Ah oui?
Oui. Car j'avais une copine qui me dit, je suis la plus ridicule de tout, je suis hyper mal à l'aise et tout, tu veux, je sais pas quoi faire. Je dis, si tu veux, je viens, tu verras qu'il y a plus ridicule que toi, ça va grave te détendre. Elle m'a dit, on y allait, du coup, c'est motivé à plusieurs copines, clairement, j'étais la plus ridicule. La prof a fini par me dire, tu devrais essayer de faire plutôt, pas du cerceau, mais du ruban.
Ah ça. oui, c'est beau.
C'est peut-être plus adapté.
Ouais.
Oui, on est peut-être plus sur un truc qui me conviendrait. Clairement, le cerceau, c'est pas mon truc.
Ouais.
J'avais l'air fortement ridicule les trois quarts du temps, mais on a beaucoup rigolé. Ouais. Mes potes se sont vachement détendus et du coup, il y en a plusieurs qui ont continué.
Ouais,
et c'est vrai que des fois, franchement, quand on dit le ridicule ne tue pas,
des choses,
faut pas hésiter. Mais écoute, je prends note, je serai dans les alentours. Je viendrai te voir faire cette démo magnifique en fin d'année. J'imagine que tu as des rituels bien-être?
Oui, qui changent tout le temps. C'est-à-dire que quand tu me dis ça, moi je pense à mon rituel du matin. En ce moment, j'en ai pas, mauvais élève. Non, ça fait des jours, des semaines que je me dis, ok, semaine prochaine, je m'y mets. Puis je procrastine comme une championne. Mais ça va revenir. En fait, je passe plusieurs mois à faire un truc le matin et puis après, boum, je rechange. Donc, soit ça va être du yoga, soit ça va être me poser avec un thé et puis écrire ou lire ou aller courir le matin. J'aime bien comme ça me lever tôt. J'adore ça. Naturellement, je me lève tôt. Et faire un truc pour moi. Et sinon, les autres rituels, eh ben, c'est manger bien. J'aime bien prendre soin des aliments que je consomme. J'aime prendre le temps d'observer la nature, de ressentir les gratitudes de mes journées. Voilà. En fait, j'adore faire arrêt sur image. Prendre le temps de faire ça. Même si je suis à bloc tout le temps, de temps en temps, je fais « Oh punaise, c'est quand même vraiment bien là. » Et voilà.
Ok, une petite arrêt sur image. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec ?
Ben, je sais pas. C'est déjà parfait comme c'est. J'ai l'impression que je vais faire la Miss France. Attendez, préparez-vous.
Tout à fait. On m'a sorti des trucs et on m'a dit « Attends, je te fais la Miss France. » Donc...
Préparez-vous, je vais faire un truc complètement cliché. Si on pouvait réduire les inégalités dans le monde avec ma baguette magique, ça serait bien. L'injustice, l'inégalité, ça c'est vraiment un truc... trop nul.
Ok. Et si tu pouvais aller n'importe où, là, comme ça, tirer où ?
Voir mon père, là où il est.
Attention, question difficile pour toi. Où et comment tu te vois dans 5 ans ?
Waouh, ça c'est dur.
Je t'ai prévenu, hein.
Il faut que je réfléchisse. Ce qui est sûr, c'est que je pense que je serai toujours en lien avec la nature et certainement l'océan. Je ne sais pas si je serai encore en Calédonie, mais ce que je ferai, c'est que je serai bien en lien avec l'environnement et certainement dans un métier lié à l'éducation et à la communication. Voilà.
Ok.
Donc je ne sais pas. À part ça, je sais pas.
C'est pas mal déjà, écoute. Alors, petite thématique de questions différentes. Comme je t'en ai parlé, j'ai dans l'idée de faire une plateforme. J'ai sur le projet, il va falloir que je m'y réattelle à cette mission. Du coup, j'ai des questions en relation avec ça. La première, c'est qu'est-ce que tu penses de la sororité en Nouvelle-Calédonie ?
Alors, c'est très drôle parce que jusqu'à ce que je sois enceinte, pour moi, les filles, c'était un truc chiant. C'était des râleuses, ça achetait des sacs à main, ça parlait de vernis à ongles, ça se tirait les couettes. Aucun intérêt, quoi. Des pisseuses totales. Surtout que j'étais que avec des gars tout le temps. Vraiment, les meufs...
des relous, quoi.
Voilà, des relous. Pas d'intérêt. À part ma meilleure amie, elle était trop cool. Mais les autres, Et puis, je suis tombée enceinte. Et j'ai surtout donné naissance à un enfant. Et là, je me suis dit, waouh ! Mais en fait, c'est un pouvoir extraordinaire, quoi. Les gens, ils pensent qu'accoucher, c'est normal. Mais non, c'est pas normal, c'est juste extraordinaire. On risque notre vie, c'est un truc de malade, quoi. Et là, j'ai plus du tout regardé les femmes de la même façon. Et après, être maman, et être papa aussi, hein, forcément... Et en fait, et c'est là que j'ai commencé à observer les femmes et à voir aussi ben, tous les défis qu'elles pouvaient avoir au quotidien en revenant un peu sur ma propre histoire. Donc, c'est là où le mot sororité, le mot féminisme a pris un peu plus sa place, où pour moi, c'est devenu moins un gros mot parce que pour moi, les féministes, c'était des nanas provocantes et je ne comprenais pas trop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais femme du lagon aussi. Ça pourrait être femme et homme du lagon parce qu'il y a plein de mecs extraordinaires qui font ces métiers-là. Mais je crois que les femmes sont pas assez mises en avant de par notre société patriarcale. Donc j'ai envie juste de leur offrir un peu plus de place dans les médias et de parler de leur parcours, et pour moi c'est ça la sororité en fait, c'est d'être des sœurs et plus des concurrentes en fait, de pouvoir aider l'autre à briller encore plus, et tu brilles du coup tu vas m'éclairer, et voilà.
Très bien. Et pour toi, ça existe en Calédonie, c'est déjà le cas.
Et en Calédonie, bah écoute, je suis arrivée il y a pas longtemps, mais ne serait-ce qu'avec toutes les nouvelles personnes que j'ai revues. Oui, après la Calédonie, c'est particulier comme contexte parce qu'on est plusieurs ethnies à vivre ici. Donc il y a plusieurs cultures, des cultures plus timides comme celle des Kanaks, des cultures différentes comme celle des Caldoches, on a aussi tous les métropolitains, tous les Chinois. C'est complexe et je pourrais pas du tout me prononcer bien qu'on ait le reflet de ce qui se passe à l'international. La parole s'est déliée à fond.
Et qu'est-ce que tu penses de la mise en place d'une plateforme numérique consacrée aux femmes océaniennes ?
Eh ben, quel en serait le but, ma chère ?
Le but serait de les mettre toutes en relation, de façon si possible, si elles le choisissent, anonyme, qu'elles puissent se former et qu'elles aient toutes les informations nécessaires à leur vie en général, sans avoir besoin de courir partout pour les trouver.
Ouais, ça, je pense que c'est un effet hyper intéressant. Moi, dès qu'il y a un objectif d'éducation, ça me parle énormément. Et forcément, en plus, aujourd'hui, comme je suis maman, me dire que je peux avoir cet impact-là dans la vie de jeune femme, moi, quand tu me parles de ta plateforme, je me dis qu'en effet, des femmes qui sont en tribu, des femmes qui sont en brousse, et en se connectant à leurs ordi, elles peuvent être inspirées par d'autres profils, c'est vachement intéressant. Moi, toute seule sur mon bateau, je me suis connectée à mon podcast et là, j'ai découvert la vie d'Américaine, la vie de gens d'ailleurs, et ça m'a propulsée, ouvert une fenêtre encore plus grande. Donc, dans ce sens-là, oui, je trouve que ça a de l'intérêt.
Ok. Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais voir sur cette plateforme ?
Je souhaiterais que c'est difficile à faire, mais qu'elle puisse vraiment attirer tous les profils et être utilisée par tous les profils et non pas seulement par des gens de ma classe sociale, plutôt métropolitain, résident de Nouméa, que la communication soit suffisamment bien faite pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et de la formation, ça me semble intéressant. La formation et puis quelques articles pour présenter le profil de plusieurs femmes océaniennes.
C'est prévu. Donc, on pourra mettre Femmes du Lagon et tout. Si on arrive à avoir les droits, si quelqu'un est gentil pour nous donner les accès. Du coup, tout pourra être dessus. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir une base aussi avec justement mettre en avant toutes les différentes femmes qui vivent en Océanie.
Ouais.
As-tu un petit mot de la fin ?
Merci. Je vous félicite, vous avez réussi le challenge de nous écouter jusqu'au bout de cette conversation.
Je pense qu'on est à 2h01.
Waouh, bravo. Vous
pouvez être ça en fera deux. Écoute, tu auras deux parties qui te seront consacrées.
Vous pouvez être très fiers de vous. Au plaisir de vous rencontrer en vrai, n'hésitez pas à venir discuter.
Elle est fan d'Instagram, moi.
Moi, je suis plutôt sur Instagram, en effet, mais dans la vraie vie, je suis plutôt sur le littoral. Si vous voulez me trouver, il faut aller à Lanzuata, à la Côte Blanche, à Wemo. Allez vous balader du côté des plages, et puis voilà.
Faut pas hésiter à l'aborder, elle est très sympa.
Ouais.
Merci beaucoup à toi de m'avoir reboosté et d'être venu jusqu'ici et d'avoir fait ce podcast avec moi.
Eh ben, Oleti.
Oleti à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Océanienne Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et à en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Océanienne Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspirée.